Ici, Moscou. L'Afrique est la proie du terrorisme international. Une attaque barbare à Nairobi nous le confirme une fois encore et tragiquement, a dit le président français François Hollande, cité par notre observateur Igor Yazon à la 68e Assemblée générale de l'ONU à New York. Les menaces du terrorisme islamique demeurent en fait réelles sur 12 de 33 millions de kilomètres carrés du territoire du continent africain. Photographié de l'espace, ce territoire du littoral méditerranéen au Sahel est peint en jaune et plus au sud en vert. C'est l'Afrique du Nord, le Sahara et enfin le Sahel s'étendant sur 4000 km de l'Atlantique à l'océan Indien. Il n'existe pratiquement pas sur ce territoire de pays n'ayant pas ressenti la barbarie des islamistes radicaux. Trois attentats ont été commis les 10 derniers jours de septembre. L'attaque des Chebabs somaliens contre le centre commercial à Nairobi, l'assassinat de 40 élèves d'un collège dans la ville nigériane de Gujba par les commandos de la secte radicale Boko Haram, l'attentat à Tombouctou commis par un kamikaze djihadiste du groupe proche d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Tout porte à croire que l'Afrique est toujours menacée par le terrorisme islamique. Philippe Hugon, expert sur l'Afrique à l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, a donné son commentaire à ce sujet dans une interview téléphonique accordée de Paris à notre correspondant.
Oui, on peut dire effectivement qu'il y a de plus en plus de risques djihadistes, c'est sûr. Je dirais que ces risques apparaissent surtout dans des zones non contrôlées ou peu contrôlées, comme les zones sahéliennes, où les États sont dans l'incapacité d'assurer la sécurité minimale. Elles apparaissent aussi dans des zones comme la Corne de l'Afrique, évidemment la Somalie, mais aujourd'hui il y a des risques également en Centrafrique. On peut dire qu'il y a la conjonction peut-être entre trois choses. Il y a d'une part le fait qu'il y a effectivement une poussée du radicalisme islamiste, d'ailleurs appuyée par quelques pays ou par quelle mouvance. Et donc là, il y a très nettement une extension du djihadisme à l'échelle moyenne, Proche-Orient, mais aussi évidemment en Afrique. Ça, c'est le premier point. Il y a deuxièmement, il y a le fait que les États sont dans les possibilités d'assurer le contrôle territorial dans un certain nombre de zones où on est dans des états de non-droit ou dans une impossibilité de fonction régalienne. Et puis on a, il faut aussi le rappeler, des zones de trafic de drogue, trafic d'armes, trafic de différents objets, voire prise d'otages, qui permettent également de financer ces mouvements islamistes qui sont très souvent aussi des mouvements mafieux où il n'y a pas de grande différence entre ou au moins il y a un lien entre des actions qu'on va placer sur le plan idéologique et religieux et sur le plan simplement de l'économie mafieuse. Donc on a aussi ces éléments. Alors ce qu'il faut quand même relativiser, c'est qu'évidemment c'est pas toute l'Afrique, mais c'est vrai que l'Afrique sahélienne d'une part et l'Afrique centrale avec la Centrafrique et la Corne de l'Afrique avec la Somalie sont devenues des zones extrêmement dangereuses et d'extension de mouvements djihadistes, dont les différents événements qui viennent se passer, l'attentat suicide de Tombouctou, l'attaque par les Chebabs du centre commercial de Nairobi sont des témoins très récents.
Après la victoire française bien applaudie au nord du Mali, après les élections présidentielles au Mali, il a l'impression que ce pays a pris le cap vers la paix.
Non, d'une part, on peut dire que la situation n'est pas complètement sécurisée. La preuve, c'est que la France a 3200 hommes militaires qui sont membres de l'opération Serval, qui devait être réduit à 1000 en décembre 2013, et chacun sait qu'il n'y aura peut-être une réduction limitée des effectifs, mais en tout cas pas 1000 hommes. Il n'y a pas encore, en plus, de relais suffisants des forces des Nations Unies ou des forces africaines. Mais on sait que la sécurité n'est pas complètement assurée. Les djihadistes ont été évidemment réduits en effectifs. On estime peut-être de moitié, et leurs équipements, leur logistique a été fortement endommagée. mais on sait également qu'ils se sont reconstitués, qu'ils ont recruté. Il y a des fusions entre les seigneurs du sang et le Mujao, qui reconstituent une force importante. Il y a eu un repli, notamment au sud de la Libye, des djihadistes, mais en même temps, ils se sont disséminés dans l'espace du Sahel. Et donc, il y a aussi des cellules dormantes qui existent. En plus, les attentats suicides par des kamikazes sont toujours possibles. Donc, la sécurité, évidemment, a été améliorée. On n'est quand même pas dans la situation, évidemment, qui existait en janvier 2013. Mais la sécurité n'est pas complètement assurée. Et il y a toujours des risques d'attentats suicides, comme il y en a eu à Tombouctou. Il y a toujours des risques aussi que les forces d'opposition que constituent les Touaregs et une partie des Arabes, qui normalement devaient négocier après le cessez-le-feu et l'accord de Ouagadougou, en fait reprennent les armes. On voit bien qu'il y a eu des tirs récemment à Kidal et que ces tirs peut-être viennent des mouvances de Touaregs. Et donc il y a toujours aussi des risques d'instabilité si on ne trouve pas une solution à la reconnaissance des droits des Touaregs, tout en considérant, bien entendu, qu'il faut une unité territoriale et que l'indépendance de la Sawad n'a aucune légitimité politique ni historique. Mais donc, il y a effectivement des éléments d'insécurité qui existent, même si la sécurité a été améliorée.
Et comment vous pouvez expliquer les choses suivantes? Cette contamination par le radicalisme, est-ce que les causes, quoi, sociales, politiques, religieuses, comment?
Si vous voulez, effectivement, ce sont les extrémistes qui l'emportent. On le voit bien dans le cas des Chebabs, puisque les tribunaux islamiques étaient la grande force d'opposition et que ce sont les extrémistes Chebabs qui l'ont emporté. Alors pourquoi? Moi, je dirais qu'il y a peut-être le fait que les jeunes, en fait, qui n'ont aucune perspective d'emploi, de revenus, sont prêts à se mobiliser pour des causes extrémistes et à avoir des armes et se mobiliser pour des idéologies extrémistes. Ça, c'est une première explication. Il faut savoir que ces mouvements islamistes concernent essentiellement des jeunes. Il y a également le fait qu'on est quand même dans un monde où l'information circule et donc les réseaux du web sont des éléments qui favorisent le recrutement de ces jeunes. Il suffit de voir le nombre de sites développés par des mouvances d'Al-Qaïda ou proches d'Al-Qaïda. On a ces éléments qui évidemment jouent. Et puis peut-être qu'il y a aussi des problèmes de financement de mouvements salafistes qui font que en réalité, face à la faible structuration politique des mouvements, on sera, disons, se référant à un islam modéré, en fait, sont beaucoup moins puissants que ceux qui reçoivent des financements et qui sont dans un djihadisme extrême, sans compter évidemment les circuits mafieux dont je parlais, qui sont des éléments de financement de ces groupes. Mais c'est vrai qu'on peut dire, certains parlent qu'après le printemps arabe, on a un hiver islamique. C'est vrai que ce sont les extrémistes souvent qui l'emportent ou qui risquent de l'emporter, avec le fait que parfois, là, il y a la réaction comme en Égypte où c'est l'armée de fait qui a fait un quasi coup d'État pour s'opposer en fait aux frères musulmans et eux-mêmes qui étaient éventuellement débordés par certains extrémistes.
Et voilà, pour terminer, Monsieur Hugon, vous savez bien que les États-Unis, la France, certaines monarchies d'Arabes se mobilisent pour chasser le régime d'Assad, Bachar Assad de Syrie. Mais il y a d'autres théâtres de la guerre.
Oui.
C'est même le Somalie, c'est le nord du Nigeria, quand même, les djihadistes sont partout, malgré l'Africom, malgré les bases militaires françaises, américaines, à Djibouti, malgré les drones.
Oui, c'est sûr, mais on a affaire à ce qu'on appelle des guerres asymétriques, c'est-à-dire que la puissance de feu, la puissance d'armement, l'utilisation l'utilisation des drones comme moyen de renseignement ou comme éventuellement moyen de cibler un certain nombre d'opposants ne sont pas suffisants pour gagner des guerres qui elles-mêmes se font essentiellement par les médias, se font par Internet, se font par les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et donc, la réponse des puissances, je dirais, occidentales, est une réponse, je dirais, traditionnelle militaire. Elles peuvent confiner, effectivement, certaines zones, elles peuvent assurer la sécurité de certaines zones, mais elles ne peuvent pas assurer ce qui ressort fondamentalement des autorités nationales, c'est-à-dire les fonctions de police, les fonctions de sécurité militaire. Donc là, il y a un véritable défi. Les forces africaines sont quand même relativement peu efficientes. Souvent, les États ne disposent pas du minimum de police et d'État pour contrôler leur territoire. Et donc, on est effectivement dans une situation souvent de non-droit qui se développe. Donc, les seules solutions viennent quand même, à mon avis, des États africains, de la reconstitution de leur armée, de leur police et d'actions régionales, puisque la plupart aujourd'hui des conflits ont une dimension régionale et une dimension pas simplement nationale. Si la sécurité est assurée au Mali, immédiatement il y aura un problème au Niger ou il y aura un problème dans des pays voisins. Donc la question, elle est à la fois du ressort des États africains, qu'il faut évidemment appuyer par la formation, par la logistique, parce qu'ils sont souvent démunis, et puis elle vient aussi des forces africaines régionales, dont on sait que pour l'instant elles sont quand même extrêmement faible. L'expérience du Mali le montre cruellement.
Donc, ils ont besoin de le soutien international, de la communauté internationale.
Absolument, absolument. Il faut que les États puissent assurer leurs fonctions régaliennes, notamment de sécurité, de police et d'une armée qui maintient l'ordre.
L'Africaniste en vue de l'Institut des Relations Internationales Stratégiques, Philippe Hugon, a parlé dans une interview téléphonique accordée à notre correspondant de menaces de terrorisme et d'extrémisme qui subsistent en Afrique. Retrouvez l'interview sur le site de la Voix de la Russie, www.french.ruvr.ru.